VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 14h à Kigali. Bienvenue à notre journal. Tout d'abord, la convention du Parti républicain à Cleveland, l'Ohio, ici aux États-Unis, qui commence aujourd'hui. Après une campagne au cours de laquelle il a déjoué tous les pronostics, le milliardaire Donald Trump s'approche aujourd'hui de son couronnement comme candidat républicain à la présidence avec le début de la convention, où sa femme Melania sera en vedette au premier jour. La convention s'ouvre officiellement à 17h temps universel à Cleveland, une ville de 400 000 habitants qui a pris des mesures de sécurité exceptionnelles dans l'attente de milliers de manifestants. Les forces de l'ordre sont particulièrement tendues après les attentats d'Orlando en Floride, de Nice en France et la mort le 7 juillet de 5 policiers à Dallas, ainsi que celle dimanche de 3 autres policiers à Baton Rouge en Louisiane, tués par un ancien marine ayant servi en Irak. En attendant le début de la grande messe à Cleveland, Idrissa Sedoudia, l'un de nos envoyés spéciaux, nous fait découvrir ce qu'est une convention.
Moi, je suis là depuis bientôt une dizaine d'années, mais je peux dire que avant que cet incident malheureux qui a eu lieu, tout se passait très bien. Mais depuis que ce jeune homme qui vendait des CD, qui a été abattu par 2 policiers blancs devant une boutique, a ravivé les tensions de communauté entre la police d'un côté et la communauté noire de l'autre côté. Donc, je peux vous dire quand même qu'il y a une peur, tout est aux arrêts, les gens ne sortent plus comme avant, les marches continuent toujours. Sur la route qu'on appelle Airline, il y a toujours des manifestations de ce qu'on appelle le Black Lives Matter avec les autres mouvements noirs qui sont là et avec aussi d'autres citoyens blancs qui manifestent chaque jour. Il y a toujours cette tension qui est là, visible. Donc, je crois qu'il y a peut-être aussi un manque de confiance ou peut-être aussi que les gens en ont un peu marre de ce qu'on dit, ce shooting, cette agressivité de la police contre les citoyens.
Nous revenons maintenant à la situation à Cleveland, puisque tout d'abord nous avons eu cet élément sur Baton Rouge en Louisiane.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Nous avons quelques problèmes techniques. Nous allons passer maintenant au sommet de l'Union africaine à Kigali, au Rwanda. Deuxième jour du 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Kigali, au Rwanda, les participants planchent aujourd'hui sur les grands dossiers, comme la crise au Burundi et le conflit au Soudan du Sud. Un rappel des grands thèmes abordés au premier jour de la réunion avec notre correspondant à Kigali, Maurice Magoran.
Dès l'ouverture, les chefs d'État se sont penchés sur les sujets chauds comme le Burundi et la situation au Sud-Soudan. Le président en exercice de l'Union africaine, le Tchadien Idriss Déby Itno, a demandé au président et vice-président du Sud-Soudan de mettre fin à la guerre.
Même si aujourd'hui le calme est revenu à Juba, je tiens, du haut de cette tribune, à rappeler au président Salva Kiir et à son vice-président Riek Machar à leur responsabilité dans cette tragédie qui traverse leur jeune nation.
Aujourd'hui, les chefs d'État se réuniront pour évoquer des sujets comme la succession de la présidence de la Commission de l'Union africaine et l'éventuelle réintégration du Maroc dans l'organisation. Maurice Magoran, VOA Afrique, Kigali.
Le roi Mohamed VI du Maroc a annoncé dimanche que le moment était arrivé pour son pays de rentrer au sein de l'Union africaine. Le royaume chérifien avait quitté l'organisation panafricaine en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Front Polisario. Le retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine doit être validé par un vote au sein de la Commission de l'Union africaine. Et puis, les électeurs de São Tomé et Príncipe ont élu dimanche, dès le premier tour, le candidat du parti au pouvoir à la présidence de la République. Evaristo Carvalho, candidat soutenu par le parti du Premier ministre Patrice Trovoada, a obtenu 50,1% des voix, soit 34 629 suffrages contre 24,8%, 17 121 suffrages pour le président sortant Manuel Pinto da Costa, selon la commission électorale CENI. Le tribunal constitutionnel doit encore valider ses résultats, a précisé la commission. En République démocratique du Congo, deux opposants ont été condamnés à 15 ans de prison par un tribunal de Lubumbashi à la suite d'une bagarre pour le contrôle d'un parking de taxi-moto. Plus de précisions avec Idriss Fall.
Olivier Kabala et Eustache Mutombo ont été condamnés à 15 ans d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Lubumbashi. Maître Alexandre Ngoy, leur avocat commis d'office, a dénoncé un procès hautement politique et a trouvé suspect que ses clients étaient seuls au banc des accusés. Le samedi, une dispute avait opposé les deux hommes à leur ancien camarade de la majorité présidentielle sur la gestion d'un parking de taxi-moto dans le fief de l'opposant Gabriel Kiungu Wa Kumwanza, leader de l'UNAPEC. La dispute s'est transformée en bataille rangée, il y a eu des blessés légers. Ces deux militants de l'UNAPEC ont été donc arrêtés, jugés et condamnés pour tentative de meurtre selon le greffe du tribunal. L'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAPEC, est membre du G7, groupe de 7 partis politiques passés à l'opposition et qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. L'opposition accuse M. Joseph Kabila de manœuvrer pour rester au pouvoir à la fin de son mandat en décembre.
Le sida reste la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans en Afrique. C'est ce qu'a dénoncé aujourd'hui l'UNICEF au premier jour de la conférence internationale sur le sida en Afrique du Sud, soulignant que la bataille contre la maladie n'était pas terminée. La ville sud-africaine de Durban accueille de lundi à vendredi la 21e conférence internationale sur le sida, destinée à relancer les efforts contre l'épidémie, qui a fait plus de 30 millions de morts. Quelques 18 000 scientifiques, praticiens, militants, juristes et bailleurs de fonds, mais aussi des personnalités comme le prince Harry et l'actrice sud-africaine Charlize Theron, y sont attendus. En Turquie, les forces de sécurité turques ont effectué tôt aujourd'hui de nouveaux coups de filet dans l'armée, poursuivant le grand ménage entrepris par le président Recep Tayyip Erdogan, qui inquiète de plus en plus la communauté internationale. Anna Bertson.
Au total, quelques 6 000 militaires ont déjà été placés en garde à vue et près de 3 000 mandats d'arrêt ont été délivrés à l'encontre de juges et de procureurs après la tentative de coup d'État qui a officiellement fait au moins 290 morts, dont plus de 100 putschistes. La communauté internationale a mis en garde la Turquie contre la tentation d'une répression généralisée. Le président américain Barack Obama a ainsi rappelé le besoin vital que toutes les parties concernées agissent dans le cadre de l'état de droit. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, a souligné que ce coup d'état avorté n'était pas un chèque en blanc au président Erdogan pour procéder à des purges. Même son de cloche à Bruxelles, où Federica Mogherini, qui dirige la diplomatie européenne, a souligné que le respect de l'état de droit et de la démocratie était le meilleur moyen d'affronter les difficultés que vit la Turquie.
On passe maintenant aux séquelles du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour sa première réunion aujourd'hui avec ses homologues de l'UE à Bruxelles, le nouveau chef de la diplomatie britannique Boris Johnson, chantre du Brexit, a déclaré d'emblée que le Royaume-Uni voulait continuer à jouer un rôle moteur en Europe. L'ex-maire conservateur de Londres a fait ses premiers pas sur la scène diplomatique européenne à l'occasion de la réunion mensuelle des 28. Depuis le séisme provoqué par le référendum du 23 juin, les Européens exhortent les dirigeants britanniques à clarifier leurs intentions et hâter les discussions officielles avec l'Union européenne. Le Royaume-Uni table sur le 1er janvier 2019 pour sa sortie effective du bloc. Et on rappelle pour terminer le grand titre de ce journal, c'est l'ouverture aujourd'hui de la convention du Parti républicain à Cleveland dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.